Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui aux élections truquées, au coup d'État et aux résistances anticoloniales en Bolivie. Et donc nous sommes toujours avec nos deux invités qui sont liés personnellement à la Bolivie et qui sont les auteurs sur ce sujet d'un article dans Le Point, le journal militant montpelliérain, en décembre 2019, d'un article donc qui s'intitule Élections truquées, coup d'État, que se passe-t-il en Bolivie? Une perspective depuis l'autonomie des mouvements sociaux indigènes et populaires. Et ils avaient également écrit un article sur ce sujet en 2017. Donc, après, dans une première partie, avoir offert un panorama historique de la Bolivie, de la période précoloniale jusqu'aux années 1990, 2000, qui sont donc le moment où Evo Morales, le président qui a récemment perdu le pouvoir en Bolivie, commence son ascension au pouvoir. Donc, est-ce qu'on pourrait donc maintenant revenir sur les conditions d'ascension au pouvoir d'Evo Morales avant de passer à une histoire et une analyse critique de son régime qui a donc été au pouvoir pendant une dizaine d'années en Bolivie.
En gros, dans les années 90, toutes les frontes sociaux se réarticulent. Ce qui avait été la gauche et la déception de la gauche au pouvoir avec sa corruption néolibérale dès les années 80 et qui s'est accélérée dans les années 90, elle a laissé place au retour du même, c'est-à-dire que les anciens dictateurs sont revenus au pouvoir par le biais des élections, parfois en alliance avec la gauche, parfois seuls. Et donc là, en l'occurrence, à la fin des années 90, il y avait eu Banzer. Dans les années 90, il y avait eu Banzer qui avait été dictateur, qui était au pouvoir. Et c'était re le MNR, le mouvement nationaliste révolutionnaire, celui de 52, qui était pro-allemand, qui a ensuite participé au plan Condor, etc. Ce MNR-là, qui est au pouvoir dans cette fin des années 90. La loi, le premier cycle de mobilisation, qui est la guerre paysanne, qui est une lutte de protestation contre une loi qui s'appelle la loi INRA, ou la loi de l'INRA. Enfin, et c'est une loi qui vise à l'étatisation du cadastre, c'est-à-dire que le cadastre soit l'organe, la seule organe qui puisse attribuer la propriété de la terre vis-à-vis d'une certaine forme de gestion de la terre qui est médiée par le biais des syndicats, des communautés rurales, etc. Et donc, c'est une lutte importante parce qu'elle définit les possibilités ou les impossibilités de terres communales à l'inverse ou contre le phénomène de terres privées garanties par l'État, etc. Il y a aussi énormément de revendications paysannes qui se greffent à ça, sur la question des structures, développement des structures productives, sur la question notamment des canaux d'irrigation, l'entretien des canaux d'irrigation. Il y a aussi la demande d'un accès à une sécurité sociale universelle. Il y a des demandes de réformes agraires plus structurelles par rapport au problème du minifundio, des petites parcelles qui sont arrivées par la fragmentation après 3-4 générations, enfin 3 générations depuis la révolution de 1952 où il y avait une réforme agraire. Donc c'est là où se joue un grand mouvement paysan qui reprend les formes de 79, c'est-à-dire les blocages de routes, l'encerclement des villes, etc. Et là, carrément, il y a le territoire d'Achakachi qui fait rupture avec l'ordre étatique. Ce qui s'était déjà passé hein, à l'époque de 52, ce qui s'était déjà passé à l'époque de 79, ce qui s'était déjà passé à l'époque avant de Zárate-Vilca et de Tupac Katari, c'est-à-dire des ruptures territoriales des structures d'auto-organisation. Et donc là, ça dure, par exemple, à Achacachi, ça va durer, la commune, elle va durer jusqu'à après l'arrivée d'Evo Morales, c'est-à-dire que ça va être Evo Morales qui va faire re-rentrer l'État dans ces territoires-là. Et c'est un exemple parmi d'autres, quoi. Donc ça a été quand même la première grosse lutte qu'il y a eu dans ce cycle. Et il y a eu ensuite la guerre de l'eau à Cochabamba, dont souvent on a entendu parler parce qu'il y a eu un film autour de ça. C'était une volonté de privatisation de structures de distribution de l'eau de distribution collective. C'est-à-dire il y a une forme d'appropriation collective de l'eau avec des rôles, des tours de chacun des bénéficiaires du système d'irrigation. Et par tour, par attribution, on répartit l'eau et on s'en charge de manière communale ou de voisinage. Donc cette structure-là, elle devait être privatisée. Privatisée au sens le plus courant du terme, voilà, au nom du développement économique, c'est-à-dire que ce soit dans des bons tuyaux, avec des vrais trucs où on puisse compter exactement le nombre d'eau qui passe, etc. Donc au nom de ces arguments-là, il fallait privatiser pour que ce soit plus performant. Et là, la population, toute la population de la zone de Cochabamba, des vallées de Cochabamba, dont l'eau est organisée sous ce système-là, et il y a eu un grand mouvement social qui s'est organisé là aussi, autant à Tchakatchi, ça s'était organisé sur les formes syndicales ou communales de paysannes, autant dans les espaces comme à Cochabamba. Ça a été plutôt des formes d'organisation qui étaient soit des petits artisans et petits commerçants, soit ceux des quartiers, soit ceux de certaines centrales syndicales de la COB. Ça s'appelait la coordination de l'eau, donc c'était quand même des formes assembléaires, des formes incluantes quoi, de grands processus de mouvements sociaux qui se basaient sur des organisations sociales, c'est-à-dire pas tellement au sens formel, mais disons sur de larges tissus sociaux, quoi, de larges pans de la société qui s'organisaient ensemble pour défendre cette question de l'eau, quoi. Et ça a été un événement fort. C'est aussi un événement qui s'est reproduit dans l'Altiplano. Il y a eu aussi et à La Paz un grand mouvement, enfin qu'il y a eu dans toute la Bolivie aussi, sur la question du gaz. C'est-à-dire, voilà. Il y a du gaz en Bolivie, est-ce qu'il doit être vendu à l'extérieur? Est-ce qu'il doit être destiné pour que les Boliviens ils puissent avoir du gaz chez eux, faire cuire des trucs? Voilà, tous ces débats-là. Et là aussi, il y a eu une grande vague de soulèvement en 2003. Donc tout ça, c'est des choses qui arrivent plus ou moins ensemble, quoi. Pendant cette période-là aussi, il y avait la question d'Evo Morales dans cette période de contestation de mouvements sociaux. Lui, il est à la tête d'un syndicat qui est le syndicat des cocaleros, des producteurs de coca.
Des producteurs de la feuille de
Des
coca.
producteurs de la feuille de coca. C'est la 6 Fédération del Trópico des Cochabamba. Ça a plusieurs dénominations, mais en gros, c'est les fédérations des producteurs de coca de la région du Chapare qui ont été, dans les années 80, suite à des délocalisations au niveau des mines, c'est-à-dire le fait qu'on arrête cette production minière et que les gens se retrouvent sans possibilité de survivre, on leur a donné le droit d'aller, alors à l'époque ils appelaient encore ça comme ça, coloniser des espaces qui étaient les espaces qui appartenaient à d'autres personnes dans l'Amazonie en fait. Le Chapare, c'est au piémont de l'Amazonie. Et donc, les personnes étaient, à partir des années 80, il y a eu quand même une guerre, 70-80, une guerre de territoire entre colonisadores, anciennement mineurs, et les populations qui vivaient là-bas pour l'appropriation du territoire. Et l'économie qui s'y est développée, c'est l'économie de production de feuilles de coca, qui a toujours été dans l'histoire bolivienne sous contrôle de l'État, en fait. Il n'y a pas de petite mafia ou de petits... Il y a aussi, quoi, mais disons, l'acteur surdéterminant reste l'acteur du pouvoir, de l'armée, des capitaux dominants, etc. Et donc, Evo Morales, lui, il sort de ce secteur-là comme représentant des producteurs de coca à une époque où la DEA, l'antidrogue, enfin, ce qui est censé être l'antidrogue, hein, tient le territoire, quoi, ce territoire-là. La DEA est présente encore sur le territoire. Et entend, comment dire, faire des luttes contre la drogue qui sont très critiquées en Bolivie parce que c'est des luttes pour le contrôle de la drogue, quoi. Ça fait partie de la temporalité que traverse la Bolivie avec donc ce qu'on a dit, donc le gaz, les luttes paysannes, les luttes pour l'eau, toute cette période-là, et la Bolivie devient très clairement ingouvernable, quoi. Très très clairement ingouvernable. Et donc le MAS Lui, l'option qu'il arrive à faire passer, c'est d'être un débouché politique. Et c'est cette option-là qui l'a emporté à ce moment-là. Il y avait des difficultés de pouvoir faire autre chose ou de qu'il y ait d'autres scénarios historiques qui viennent. Beaucoup des organisations, au fur et à mesure, se sont rattachées à cette option-là, bien que un pan très très important de la masse critique, etc., des gens qui étaient dans la rue, dans les mouvements sociaux, étaient à la fois perplexes et savaient pas trop comment trouver une autre alternative. Et donc cette option-là, elle a pas du tout laissé place à une transformation de la société bolivienne, en fait. Très rapidement, la question de refaire une constitution s'est articulée autour des partis politiques. Très rapidement, c'est le discours de la loi qui a repris ses droits sur toute tentative d'autodétermination ou d'imaginaire d'autodétermination populaire. La question, pareil, du mode de production, de la remise en cause du système extractiviste et de l'exportation comme moteur de la création de richesses, ou de toutes ces questions-là ont été progressivement rejetées. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que il y avait dans cette capacité de Morales aussi à incarner quelque chose qui allait composer aussi très largement, quoi. C'est-à-dire que Evo Morales, c'était aussi l'image du self-made man et d'une gauche qui réussit, hein. Quand on dit Evo Morales, il est indigène, paysan, machin et tout, il faut quand même préciser qu'est-ce que c'est d'être producteur de coca dans la zone du Chapare en Bolivie. Voilà, c'est une classe sociale particulière et c'est pas représentatif de l'essentiel de la population rurale ou de la population qui travaille dans le secteur de l'agriculture.
Tous les autres qui pensaient être opprimés et qui pensaient avoir une amélioration de la qualité de vie, c'était pas ça en fait. C'était vraiment qu'il a créé une nouvelle bourgeoisie ascendante en fait. Et par contre, les pauvres, ils sont continués plus pauvres. Alors, il faut dire aussi qu'il y a des choses qui sont quand même changées. Il y a les salaires, ils sont montés. En fait, ça a révalorisé la monnaie. Il a donné un peu plus de, enfin, la valeur de le boliviano, quoi. Il a monté. Mais avec des promesses qui sont aussi des façons d'acheter les gens, quoi. Clientélisme entre lui et les organisations sociales, que jusqu'à ce moment-là, elles étaient des guerrières. Et que, en fait, à partir de ce moment-là, tout le monde a pensé, enfin, bon, c'est bon, là, on est tranquille, ça va bien se passer, c'est bon, on a quelqu'un qui vient de le bas. Donc du coup, comme il vient du bas, il va faire valoir la voix de ceux qui ne l'ont pas.
Et très rapidement, le MNR, l'ancien gouvernement qui a été presque toujours au pouvoir, quoi, hein, pendant toute cette période entremêlée de dictature, de démocratie, il est toujours resté le parti, disons, central. Ce parti-là a rejoint le MAS. L'essentiel des cadres de ce parti-là ont rejoint le MAS. Même des gens de la droite. Par exemple, il y a eu un moment quand il est arrivé au pouvoir, il y avait eu des velléités de sécession de la région de Santa Cruz, etc., qui étaient représentées par le secteur de la droite. Bon, ben, même à cette époque-là, il y a des gens finalement de cette époque-là qui ont rejoint le MAS, qui est devenu le parti de gouvernement, donc qui est devenu le pouvoir lui-même, quoi, et qui s'est réarticulé sur les formes de l'État bolivien dans sa spécificité historique de construction, avec toute sa dimension de violence, de corruption, de clientélisme, d'affairisme. C'est ce poids déterminant qui a fait l'histoire, en fait. C'est pas dans le sens inverse, quoi, que ça s'est passé. Donc sur les mouvements sociaux, particulièrement, très très rapidement, toutes les voix dissidentes et même des fois des voix majoritaires ont été vraiment réprimés, quoi. Il y a eu tout au long de l'histoire des des menaces, des coups, des intimidations, des meurtres,
Des
des
incarcérations,
incarcérations, des assassinats.
des divisions de mouvements sociaux, des... En fait, ils connaissaient même le mouvement depuis l'intérieur.
Et donc c'était des gens qui faisaient partie de cette histoire. De résistance qui ont aussi qui sont passés de l'autre côté, ce qui a en termes de renseignements, en termes de manière dont on gère les mouvements sociaux, donne des trucs très particuliers.
Oui, un petit peu comme le cas du Parti socialiste dans les années 80 avait réussi à récupérer une large partie de la contestation, ce qui avait abouti à une sorte de dépression des mouvements sociaux pendant une quinzaine d'années jusqu'au mouvement de grève de 95, quoi.
Il y a cette dimension-là qui est approfondie par disons la violence, quoi, la pratique de la violence dans les relations politiques, de la violence, du clientélisme, de certaines méthodes en fait de gouvernance qui sont propres à l'État bolivien.
Et peut-être qu'on peut revenir rapidement sur la nouvelle élite du pouvoir. Au Venezuela, on a beaucoup parlé de l'ascension au pouvoir d'une boliburgeoisie avec l'arrivée au pouvoir de Chavez et puis sa continuation avec Maduro. Dans l'article, vous décrivez un petit peu la constellation qui serait au pouvoir en Bolivie jusqu'au récent coup d'État. Donc vous parlez des milices policiers et militaires nationalistes, des fonctionnaires du MAS, les entrepreneurs patriotes entre guillemets, même si en parallèle l'ancienne classe dominante agrarienne voilà, l'oligarchie coloniale était toujours évidemment présente en termes de domination de classe.
Il y a toujours une continuité d'une alliance de classe générale, quoi, dans la société bolivienne qui évolue au fur et à mesure de l'opportunisme politique et puis surtout des situations concrètes de lutte qui sont imposées, quoi, dans la réalité. Et c'est vrai que les alliances, là, telles qu'elles ont été pendant la période d'Evo Morales, il y avait effectivement toujours cette vieille structure extractiviste qui est la source de l'organisation de l'économie. Maintenant, quand il y a eu cette période-là, il n'y a pas eu de renversement fondamental de la géographie sociale bolivienne. Maintenant, l'économie telle qu'elle existe, etc., il n'y a pas eu de transformation radicale, je dirais. Il n'y a pas tellement de gaz, il n'y a pas tellement de pétrole. La mine, qui est le gros secteur, il est essentiellement privé. Il n'y a pas de grosses rentes pétrolières ni de gestion étatisée de toutes les ressources, quoi.
Oui, mais il y a le lithium,
Il y a du lithium,
il y a l'uranium qui pourra
il y en
être
a un peu,
sorti.
mais pour l'instant, voilà, c'est surtout les multinationales qui sont.
Oui, c'est ça.
C'est pas, il y a pas de nationalisation des minerais en Bolivie. Il y a juste une nationalisation de l'hydrocarbure où il n'y en a pas beaucoup. Voilà.
En fait, il avait promis la nationalisation des ressources, mais en fait, il n'y a pas eu de nationalisation. Et en fait, à la fin, il a commencé à donner un loyer, une concession à des autres entreprises, soit chinoises, soit canadiennes.
Il n'y a pas eu de grandes transformations majeures. Il y a eu des trucs qui ont été faits par rapport à l'augmentation des salaires et par rapport à certains bons. Mais par contre, sur la question d'une réorganisation de l'économie pour sortir du modèle d'exportation et trouver à un moment donné les possibilités d'autosubsistance, ça n'a pas été fait ni dans le domaine de agraire, ni dans le domaine encore moins industriel, artisanal, urbain.
Oui, donc vous diriez que finalement, les mouvements de contestation qui ont été particulièrement vifs depuis 2017, mais qui ont existé en réalité tout au long des années au pouvoir de Morales, c'est en fait le produit aussi finalement de l'échec des objectifs annoncés du socialisme 21e, du 21e siècle. C'est-à-dire que finalement, ce soi-disant socialisme du 21e siècle n'a fait que reproduire une forme de capitalisme néolibéral basé sur l'extractivisme, les sociétés multinationales et voilà, les latifundias capitalistes. Et ce qui fait qu'au final, ce que vous dites dans votre article, c'est que le socialisme du 21e siècle, la seule chose qu'elle a réellement réussi en dehors de certaines réformes social-démocrates qui n'ont pas changé grand-chose à la situation de misère structurelle et de surexploitation, et qui ont souvent été faites de manière clientéliste, que finalement leur seule réalisation, c'est en partie finalement l'affaiblissement et la cooptation des mouvements sociaux, des centrales ouvrières, de certaines organisations indigènes, etc., etc. Un petit peu comme on pourrait faire un bilan relativement analogue finalement du Parti socialiste en France sous François Mitterrand.
Ouais, ça a été un truc qui a été fait aussi dans le dans de, avec avec énormément de violence et d'argent et de tout au long de cette période-là, quoi. Ça a pas été cool, quoi, cette histoire-là. Après, il y a eu effectivement d'autres choses qui font partie d'autres moments de la société, mais ouais, il y a eu énormément d'incarcération, d'arnaques, de destitutions. Par exemple, sur les organisations sociales, ils ont essayé de les diviser en deux. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des organisations sociales qui étaient d'une manière ou d'une autre qui pouvaient avoir une analyse critique, ils essayaient de reprendre contrôle de ça et de faire scissionner ou de... Et progressivement, en fait, ça c'est la parole, elle s'est ouverte, moi j'ai l'impression, sur pas mal de choses. En 2017, il y avait eu une lutte à Achakachi contre la corruption. Avant, il y avait eu un référendum dans lequel les gens voulaient plus qu'ils se représentent une xième fois. Par contre, j'imaginais pas un retour de la droite, quoi. C'est-à-dire que ça avait l'air à l'époque complètement impossible, quoi, parce que le MAS avait absorbé quelque part toute la droite, quoi. Et donc ça s'est pas passé comme ça. Il y a eu un retour, quoi, finalement, de la droite, quoi.
Est-ce que finalement, si on fait une analogie avec la situation brésilienne, est-ce que finalement la droite et les classes dominantes traditionnelles n'avaient pas accepté le MAS tant qu'il avait une réelle puissance de mobilisation derrière lui? Mais une fois qu'il a perdu cette puissance de mobilisation, eh bien, d'une certaine manière, il devenait inutile et encombrant pour la classe dominante et la droite qui préfèrent prendre en main directement les affaires. Un petit peu comme au Brésil, le Parti du Travail a été toléré par les classes dominantes et même accepté dans une certaine mesure tant qu'il avait cette capacité de pacification sociale qui est le propre des gouvernements sociaux-démocrates qui arrivent au pouvoir après une période d'intense lutte sociale et qui cooptent et institutionnalisent une partie de ces luttes sociales qui l'ont porté au pouvoir. Mais une fois que, y a une démobilisation voilà, de ces forces sociales qui cessent de soutenir voilà, la gauche au pouvoir, eh bien, pour les raisons que vous avez évoquées, c'est-à-dire à la fois finalement l'absence d'amélioration réelle et de changement de modèle économique, et d'autre part le fait que c'est un parti effectivement qui a gouverné par la violence, le clientélisme, le narcotrafic, etc., etc. Les gens donc du coup se sont détournés du MAS comme ils se sont détournés au Brésil du PT, ce qui a laissé finalement la place à la droite et à la classe dominante traditionnelle pour reprendre le pouvoir. Ce qui fait que si on fait une analyse plus générale, enfin sur le retour de la droite au pouvoir en Amérique latine ces dernières années, la droite revient au pouvoir parce que la gauche qui a été au pouvoir dans un certain nombre de pays en Amérique latine à partir des années 2000, en fait, a perdu toute légitimité populaire et a déçu les gens et a conduit à une démobilisation, ce qui a préparé le terrain justement au retour de la droite au pouvoir.
Ben c'est exactement ça. Par contre, il faut bien savoir que dès le moment que ils sont rentrés au pouvoir, il y a une alliance en fait avec toute cette partie de la droite néolibérale qui participait aux décisions aussi. Si c'est un peu partout en Latino-Amérique, en fait, cette phénomène, c'est un phénomène qui est assez étonnant. En fait, c'est oui, le gouvernement en place de gauche qui sont ouverts les portes à tout ce que le néolibéralisme il voulait y arriver.
À l'époque même, il y a certaines lois qui ne devaient pas passer, qui ne passaient pas dans les années 2000, qui passaient, et qui progressivement
Voilà.
ont été faites par le MAS, quoi, et qui semblaient complètement innégociables, et qui sont progressivement, qui ont été mis en place, quoi, que ce soit sur la question de la mine, en gros, toutes les promesses se sont précisées, quoi. Et quand ça s'est précisé, c'était des lois qui allaient dans le sens d'une économie d'exportation qui renforce les secteurs majoritaires de l'économie. C'était des lois qui restreignaient les formes d'organisation communale, sociale, vécinale, etc. C'était des pratiques avec les mouvements sociaux, de clientélisme, de prébendalisme.
D'extractivisme.
Ouais, en fait, vous diriez que le MAS n'a pas seulement reproduit les structures de domination et d'exploitation qui lui préexistaient, mais qu'il les a d'une certaine manière renforcées, un petit peu comme le Parti socialiste.
Sur certains points,
Oui, sur
sur
certains
certains
points.
points, et sur d'autres, il y a eu, comme ça a été précisé, quand même une stratégie de monnaie et d'augmentation du salaire, ce qui fait que le bolivianos valait plus de dollars et on gagnait plus de bolivianos de l'heure, quoi. Il y avait quand même des. Moi, j'ai vu, il y avait des augmentations de 10% du SMIC par an, des trucs comme ça. Donc, il y a eu quand même des répartitions sur la question des salaires qui ont eu lieu. Et de la même manière, en partie, certaines politiques sociales qui ont eu lieu, mais qui n'ont jamais été vraiment universelles, puisque de toute façon, le salaire légal, c'est pas la réalité de la société bolivienne.
Enfin, d'un côté, il y a eu une poursuite d'un développement fondé sur un capitalisme extractiviste, tourné vers l'exportation, corrompu largement, un capitalisme de connivence d'ailleurs, un petit peu comme au Moyen-Orient d'une manière un peu différente.
Pas plus qu'avant en fait, voilà. C'est-à-dire pas plus qu'avant, pas plus qu'après quoi. Juste dans la
Aussi quand
connivence de
même.
l'État, il n'y avait pas les mêmes gens et il n'y avait pas les mêmes alliances sociales derrière la possibilité qu'y ait l'État. Mais c'est des choses qui sont reproduites, que ce soit en 52, que ce soit en 79, 80 à la période de la transition de la démocratie ou que ce soit après avec le MAS. C'est-à-dire c'est les mêmes processus d'usurpation.
Mais encore plus important avec l'ouverture aussi pour l'agro-négocio, quoi. Enfin, pour le business de l'agro.
Donc voilà quoi. En gros, qu'est-ce qui a fait que. Pourquoi il y a eu la possibilité d'une situation qui a débordé pour le MAS? C'est que, aussi, il n'y avait pas le même soutien dans la société que ce qu'il y a eu à d'autres périodes. Parce que bah, ça s'était effrité. Les différences entre lignes et politiques n'existaient pas vraiment. C'est-à-dire les candidats à la présidence représentaient un peu la même chose. Le MAS n'était pas si différent des programmes de soi-disant droite, et les programmes de droite n'étaient pas si différents des programmes de gauche. En réalité, avant, dans la société, moi je crois qu'il y avait eu des convulsions, ce qu'on disait en 2017, la lutte contre la corruption, le narcotrafic, etc., partie d'Achakachi. Il y a eu énormément d'autres luttes qui ont marqué toute l'histoire du gouvernement Evo Morales, qui ont été réprimées, ouais, vraiment. Assez brutalement, il y en a beaucoup qui sont toujours en cours, hein, et que ce soit notamment les luttes de territoire, hein, sur les questions de la défense des territoires, que ce soit dans l'Amazonie ou dans les Andes. Tout un moment donné où cette accumulation d'histoires, de luttes, etc., elle a réussi à ouvrir quand même quelque chose dans la société. Et qui est une critique quand même, qui au début était peut-être minoritaire, clandestine et tout, et puis qui a acquis de plus en plus de possibilités publiques, quoi, de rendre audible son discours, quoi, ou entendable. Et ça s'est quand même accéléré sur la fin du gouvernement Evo Morales, et il y a eu une fuite en avant, quoi, de cette politique-là. Qui était de dire on va se représenter alors qu'il y avait eu un référendum qui disait les gens ont dit non, on veut pas que tu te représentes. Et que, bon, voilà, on va faire des élections à la bolivienne, quoi, mais cette fois-ci, bien potage, quoi. On va être bien gras sur comment on va, voilà, bien clienteler, bien faire tout à tous les niveaux, toutes les échelles, je pense, voilà, quoi, parce que c'est un peu une fuite en avant. Mais bon, pas plus que d'habitude non plus, mais bon, ça s'est plus vu particulièrement cette fois-ci, quoi.
Un petit peu comme la fuite en avant de Maduro au Venezuela, qui fait qu'aujourd'hui, Maduro, lui, pour le coup, il a réussi son coup en instaurant une forme de dictature qui n'est même plus soumise à un contrôle électoral.
Ouais, en gros, quoi, ils ont éteint la télé, le décompte s'est arrêté, le décompte public qui s'est arrêté, après le décompte public il est réapparu. Entre-temps, ils ont dit ça a changé parce qu'il y avait des voix qui venaient des provinces qui étaient pour Evo Morales. Enfin bon, tout était. C'était un spectacle dramatique, j'imagine, à voir parce que parallèlement à ça, la société s'est enflammée. Avec très rapidement, on va dire, les comités civiques qui se réapproprient quelque chose de très chaotique au début et qui veulent se représenter comme les représentants de l'ordre.
De la
Dans le
résistance.
désordre, ouais, la résistance dans le désordre, ils veulent protéger les institutions au nom de. Il y a eu énormément de remous, quoi, suite à cette situation. Dans les dépôts, des gens sont positionnés en disant qu'il y avait une fraude, d'autres qui ont dit qu'ils n'ont pas gagné. Les gens se sont défendus, ont armé des barricades partout,
De toute
quartier contre
façon, il était à
quartier.
40, 46%, hein. Il n'était pas loin des. Il n'en a été jamais super loin de la compte.
Oui, parce qu'il faut préciser que du coup, la loi électorale de la Bolivie fait en sorte que si on a 50% ou plus, on est élu président dès le premier tour, mais qu'on peut aussi éventuellement être élu dès le premier tour si on a plus de 10 points d'avance sur le deuxième. Et l'arrêt des décomptes a permis de trafiquer les voix pour que Morales ait plus de 10% d'avance sur son adversaire, enfin sur son adversaire direct, et que même si du coup il n'avait pas les 50%, du coup, selon la loi électorale, il devenait président. C'est cette fraude-là en fait qui a été faite.
C'est ça ce que je pense qui a choqué la population parce qu'en fait, il n'a pas voulu aller au 12e tour. Il a dit, ben non, j'ai gagné parce que j'ai plus de 10%, c'est bon quoi. Donc, dès le moment qu'il s'est mis dans cette position, tout le monde a pété le plomb en fait. Donc, le faux guerrier de la démocratie, ils sont sortis aussi au même temps que deux autres gens qui considéraient que déjà 14 ans, c'était abusé quand même. Parce que quand même, c'était une tentative d'avoir un quatrième mandat et que c'est complètement inconstitutionnel.
En fait, c'est chelou ce qui s'est passé. Voilà, il y a eu. C'est vraiment chelou. Il y a eu à la fois un conflit qui s'est passé de protestation contre le vote, le trucage du vote. Et initialement, il y avait la possibilité d'imaginer un second tour. Cette option, elle a été écartée par la gauche, puis ensuite par le candidat de droite. Ça parle le MAS, il a dit nous, le MAS, le candidat de droite a dit nous non plus, on veut pas de second tour, on veut la destitution du président, etc. Et les gens se sont retrouvés positionnés dans un scénario où globalement ça a été les comités civiques qui ont récupéré tout ce qui était du côté de la contestation du MAS et de l'autre le MAS. Et les comités civiques, c'est vraiment des organisations qui sont ça n'a pas d'équivalent en France. Ce serait entre les chambres de commerce et d'industrie, les syndicats patronaux locaux, des maisons de la culture, des organisations sociales, des clubs de foot, tout ce que tu veux, tu vois, une certaine bourgeoisie, notable du coin.
Ouais, c'est la société civile, des classes dominantes traditionnelles.
Ouais, no, c'est toujours les alliances dominantes. Les alliances dominantes, parce qu'il y a quand même une dimension transclassiste à ces organisations sociales. Chelou. Justement parce qu'elles sont clientélistes, parce qu'elles sont. Voilà.
Et la partie qui a été jamais prise en compte, c'est la voix des gens qui n'étaient pas avec Evo Morales, mais qu'ils tenaient pas à que la droite y revienne encore une fois sur le pouvoir. C'est cette partie qui a pris plein la gueule, en fait. Parce que c'est cette partie qui a payé avec les morts, avec le civique. Ils ont essayé de se rapprocher cette lutte-là, mais voyant qu'ils ne sont pas pu. Ils disaient, ouais, en fait, vous êtes des masistas, tu vois, de la partie du MAS, des Evo Morales. Et eux, ils disaient, non, nous, on n'est pas des masistas. Enfin, voilà, on ne veut pas des Evo, mais on ne veut pas non plus de vous, quoi. Parce que c'était en train de s'instaurer. Au premier coup, déjà, il y avait la milicia. Ils sont sortis la Wipala, ils l'ont brûlée du palace des gouvernements. La Wipala, c'est le drapeau avec un drame amazonique. C'est tout ça qu'ils se sont attaqués, en fait. Ils se sont attaqués au symbole que c'est touchant pour le peuple. Parce que de toute façon, dans le moment où Evo Morales, il était monté au pouvoir, quand même, il y a eu une réivindication.
Un changement quoi de paradigme, de possibilité de dire des choses ou de pas les dire, quoi, que ce soit dans tout le domaine des sciences sociales, de la philosophie, et puis de la vie concrète aussi des gens, quoi. Il y a eu, comme toute période de lutte, et ça s'était passé aussi hein, à la période de 1952 d'une certaine manière, à toutes les périodes de lutte qui voilà, bah, les gens ils lèvent la tête, ils disent pas on est des merdes, voilà, ils existent,
Voilà.
quoi. Effectivement, ça a été très difficile cette période-là, parce que ça a été polarisé en trois groupes différents, que ce soit les gens très. Le bipolarisme dominant, c'était masse-anti-masse. Et l'anti-masse, c'était les comités civiques. Et en dehors de ça, il y avait tout ce qui était autre, le décrochage progressiste des mouvements sociaux sur le masse, du masse, il se reportait là, quoi, dans l'espace politique. Et c'est cette voie-là qui a été à la fois exclue. Et ce qui s'est passé, c'est que progressivement, il y a eu une montée en tension entre les comités civiques et le MAS. Et cette montée en tension, elle a abouti à la demande de destitution par l'armée, qui disait, bon, bah voilà, nous, dans cette situation, on n'assure plus le truc, on vous conseille de démissionner. Et avant, ce qui s'était passé, c'était que déjà la police, elle s'était positionnée de rien faire, quoi. De pas
Voilà.
intervenir. Voilà, la réorganisation de l'armée qui reproduit l'État, bah ça, c'est ce qui est arrivé à Evo Morales aussi, quoi. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu de réflexion sur ce que c'est cette question-là, le service militaire, la dimension voilà, hiérarchique, de domination qu'il y avait dans tout ça. Toutes ces questions-là, elles ont été laissées à la vieille aristocratie, comme en France aujourd'hui. Hein, l'armée, c'est la chasse d'arrière-gardée des nobles, quoi. Et c'est cette même aristocratie qui organisait ce pouvoir-là et qui le disciplinait sur tous les corps, quoi. Même il tatouait les gens, quoi. Il tatoue les gens. De symboles d'extrême droite quelconque, quoi. Mais ils essaient de tatouer le maximum de gens. C'est un espèce de rituel dans l'armée. Tout ça pour dire qu'il y a un poids de cette histoire-là de
Voilà,
l'armée.
et que la plus partie, c'est voilà, les Français, ils vont à l'armée, quoi.
Et c'est ça qui
Ils vont
s'est.
défendre les intérêts des patrons.
Voilà, c'est ça qui s'est. C'est ces choses-là qui sont aussi jouées, quoi, dans les rapports de force.
Oui, et ça, c'est le fait que finalement Morales n'a pas pu compter sur le soutien de l'armée, c'est une grosse différence évidemment avec les Venezuela, où justement la bolie bourgeoisie venait de l'armée quand même, hein. Je veux dire, Chavez, c'est un ancien militaire putschiste. Évidemment, c'est ce qui a permis à Maduro, même privé de tout soutien populaire, de garder le pouvoir. Ça a été principalement le fait qu'il avait quand même le soutien de l'armée. Et que même s'il avait ni le soutien d'une partie de la bourgeoisie libérale, ni le soutien du mouvement social qui avait porté Chavez au pouvoir, il pouvait quand même compter encore là-dessus. Alors qu'effectivement, Morales, lui, a été poussé dehors par l'armée.
Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Parce que, bah, par exemple, quand il y a eu Jeanine Agnès qui est arrivée au pouvoir, bon, bah voilà, là il y a eu, si j'ai bien compris, énormément de thunes qui ont été données à l'armée, à qui on a dit, vas-y, tirez sur la population, il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Et donc il y a eu 37 morts pour stabiliser, voilà quoi, la convulsion sociale en cours en Bolivie.
Plus de 1000 blessés.
Et donc, pour revenir du coup sur la situation très contemporaine, du coup, suite voilà, à la pression de l'armée, Evo Morales est parti du pays et il est allé donc s'exiler au Mexique. Et du coup, ce qui a pris sa place, c'est un gouvernement transitoire de droite qui représente donc les comités civiques et donc la droite traditionnelle et les classes dominantes traditionnelles. Donc là, d'une certaine manière, comme vous dites, ça a pris toutes les formes d'un coup d'État en règle, puisque en fait, c'est la vice-présidente du Sénat qui a récupéré le pouvoir, parce qu'en fait, tout le monde s'est désisté à un niveau constitutionnel. Une fois que le président a démissionné, ça aurait dû être quelqu'un d'autre que elle qui aurait dû récupérer le pouvoir constitutionnellement. Mais ces autres personnalités ont été écartées, enfin, se sont auto-écartées. Mais on suppose qu'il y aurait eu des pressions de la part de la droite traditionnelle, de l'armée, etc.
À partir du moment où les élections elles sont été truquées, qu'il n'y a pas eu de second tour, qu'il y a la démission d'un président au lieu de la continuation des élections entre les deux qui s'étaient présentés. T'imagines, il y a un second tour aux élections françaises et après on dit bon bah non, finalement il n'y a pas de second tour, il y a un coup d'État. Enfin, c'est n'importe quoi. Il faut au moins faire le ce, tu vois. C'est là en gros la ligne entre guillemets constitutionnelle qui est franchie, c'est celle-là. Elle est franchie à ce moment-là.
Une fois que Evo il a renoncé, tout de suite il y a eu l'autoproclamation de cette femme, Yanina Agnès. Il restait qu'elle et deux personnes de plus dans l'Assemblée constituante, enfin dans le Sénat, quoi. Donc, enfin, elle a dit bon, c'est moi, hein, c'est mon tour. Donc, elle s'est autoproclamée.
À partir de ce truc-là, à partir du moment où il y a eu cette présidente-là, les trucs se sont continués à se réarticuler. Et bon, très rapidement, c'est ça qu'il faut imaginer, c'est-à-dire on passe sur un mode, bonjour, premier décret, l'armée, on tire sur les gens, bonjour, c'est la démocratie, quoi.
Voilà.
Et là, la démocratie constitutionnelle qui, machin, dans le malheur de cette situation, doit assurer la continuité des institutions et compagnie, quoi. C'est le premier caractère de ce gouvernement, c'est d'avoir tué 37 personnes, des milliers de blessés par balle et un climat vraiment de terreur. Alors voilà, logiquement, les élections, elles doivent avoir lieu. Elles auraient déjà dû avoir lieu, elles ont lieu plus tard finalement. Et bon,
Elles ont été reportées,
c'est
mais
va savoir qu'est-ce que c'est quoi la situation.
Et du coup, face à ces événements, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que voilà, les mouvements sociaux et indigènes autonomes ont réagi et quelles sont les perspectives pour ces mouvements dans les prochains mois pour faire face à ce coup d'État et cette reconfiguration du jeu politique qui, d'une certaine manière, les a quand même libérés de l'emprise du MAS?
Il y a des articulations qui s'organisent, mais c'est un climat assez rude, quoi. Je pense que là, tout de suite, c'est compliqué de parler de qu'est-ce que les gens enfin, ils s'attendent. En fait, on a tous des attentes. En fait, moi-même, je viens de là-bas. Je voudrais pas que ça s'instaure le régime de la terreur, quoi, chez moi. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, avant, y avait, la police, elle n'avait pas le droit de tuer. Aujourd'hui, elle l'a.
Ah, c'est moins
C'est
bien, hein.
extrêmement difficile de dire les demandes qu'on a, parce que déjà, ils sont pas compris du tout c'est quoi un gouvernement de transition. Et ben maintenant, c'est plus un gouvernement de transition. Voilà, c'est très compliqué. Alors, ça s'organise, hein. Les organisations de base, elles ne sont jamais arrêtées, en fait. Quoi qu'on puisse y penser, elles ne se sont jamais arrêtées, quoi. Ça veut dire que ça continue, il y a une résistance. Il y a une résistance à toute cette humiliation, mais il y a aussi une répression. Il y a des arrestations tous les jours, il y a, Il y a les gens qui craignent, tu vois, tous les médias alternatifs de communication et tout. Il y a au moins 43 radios communautaires qui ont été, enfin, qui ont été détruites, elles ont été saccagées. Et il y a tous les médias de communication militante qui reçoivent des menaces, tout le monde va aller en prison. Donc, c'est très compliqué. Là, des moments, c'est vraiment très compliqué
Et puis il y a des groupes de choc
d'avoir
de la société
ouais,
civile
en plus
qui accompagnent la répression, qui sont qui est
qu'ils
toujours
appellent la
libre armement,
résistance,
résistance, la jeunesse en
la
résistance,
jeunesse en résistance
Cochabamba,
de
jeunesse en résistance
Cochabamba.
Santa Cruz,
Mais
La
en
Paz.
fait, c'est partout, quoi. C'est partout le pays. Donc, du coup, eux, c'est vraiment un groupe des paramilitias, quoi. Enfin, et ils sont prêts à tout, tout. Du coup, eux, ils puissent aller sortir frapper tout le monde, les gens qui sont habillés en traditionnel ou aller faire des réprimandes dans les manifestations et tout. Enfin, en fait, c'est un climat assez fascisant, quoi. Tu vois, c'est complètement décomplexé, en fait. Ils disent, ouais, on va tuer les indios, on veut pas de ces chiens, de cette sale race de merde. Enfin, voilà, tu vois, tout ça, voilà, c'est le colonialisme interne. C'est un climat assez dur, quoi. Enfin, donc, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est un
Ouais.
peu tôt de parler
Il y a
de...
peut-être des zones un peu, tu vois, les zones par exemple de Evo Morales, par exemple le tropique de Cochabamba, pour l'instant il est assez impénétrable, hein. Je ne sais pas comment ils vont se débrouiller sur cette question-là, mais
Ouais.
il y a un vrai problème là-dessus, là, sur cette. D'ailleurs, c'est un peu une bombe à retardement. Et sinon, bah, il y a dans les zones, il y a quand même El Alto, où il y a eu quand même une grande, grande articulation depuis les organisations sociales de base pour avoir bah, voilà, quelque chose face au gouvernement. Et les territoires un peu du nord de l'Altiplano, Achacachi, au Massouyou. Et pour l'instant, c'est un peu ces territoires-là ou les organisations de ces territoires-là qui sont un peu dans des formes de contestation. Et après, sinon, t'as des contestations plus urbaines, etc. Il y a quand même des tensions, quoi, dans les villes, entre, par exemple, à Cochabamba, entre le nord de Cochabamba, qui est plutôt riche, et le sud de Cochabamba, qui est plutôt pauvre. Il y a quand même pas mal de trucs
En fait,
qui.
toutes les organisations territoriales de base, elles avaient peur les unes des autres parce que, en fait,
Je savais pas qui était qui.
voilà, les autres, ils sont semés un climat de terreur, quoi. Donc, ça veut dire que tout le monde avait peur de l'autre et c'était assez compliqué, quoi.
Mais du coup, aujourd'hui, voilà, c'est extrêmement difficile pour les comités de quartier, les organisations féministes, les organisations autochtones, les sections les plus combatives de la centrale ouvrière bolivienne, de faire face à ce gouvernement réactionnaire. Mais bon, pour finir sur une note légèrement positive, on peut dire que voilà, tout ce qui s'est passé, on peut penser que les organisations sociales et populaires auront tiré comme enseignement de la période actuelle le fait que ni la droite ni la gauche capitaliste ne sont voilà, des options viables, et peut-être que ça pourra prémunir voilà, des tentatives futures de la part de la gauche bolivienne, de tenter de coopter les organisations sociales de base. Enfin, qu'est-ce que vous diriez un petit peu là-dessus?
En fait, pour moi, je pense que, en fait, c'est pas du tout défaitiste, tu vois. C'est pas ça ce que je voulais dire. En fait, c'est là tout de suite, ils sont jamais arrêtés, en fait. Ils continuent à s'organiser malgré tout la convulsion qu'il y a dedans du pays, qu'on puisse imaginer, des incarcérations, des disparitions, tout ne les a pas arrêtés. Donc du coup, les gens, ils continuent à s'organiser, ils continueront à s'organiser malgré des arrestations, malgré tout ça, il y a des voix, les voix qui ne s'entendaient pas avant que, voilà, qui, pour des différentes raisons, aujourd'hui, il y a beaucoup de, tu vois, il y a de l'espoir, oui, il y en a. Mais c'est très difficile encore à savoir que, enfin, comment ça se développe, comment ça va s'organiser. C'est sûr, la société civile en général, ils pensent que, voilà, qu'il n'y a plus rien qui se passe, que tout ça s'est revenu à l'ordre, que tout ça se passe bien. Nous, on sait que ce n'est pas vrai, parce qu'on continue à rester alerte. Et je pense que de plus en plus, ça va s'entendre. Enfin,
Ce
ouais.
serait difficile d'imaginer que cette situation-là, elle arrive à s'imposer éternellement, quoi. C'est-à-dire qu'on puisse imaginer qu'on va reprendre dans un rythme où il y aura des dictatures, etc. Il y a eu déjà là, plusieurs mois, là, je ne sais pas comment appeler ce régime de fait. Et si c'est une dictature, et donc ensuite, est-ce qu'il y a des élections qui sont de retour? Bon, voilà, de toute façon, la sortie des élections, c'est pas l'enjeu. Malheureusement, ça va être, c'est sur ça que ça va être polarisé. En dehors de ces questions-là, il y a des questions de fond, effectivement, qui animent quand même beaucoup de tissus sociaux, de parties de la société, quoi, en Bolivie. Et qui quand même ouvrent des champs, à autre chose, quoi, que simplement, ce qui s'est passé jusque-là. Malheureusement, s'il y a une sortie, en tout cas la première type de sortie qu'il y aura de cette situation-là, ce sera une sortie par des élections, quoi. Ça, on a du mal à imaginer aujourd'hui, la société, enfin, comment dire, l'histoire bolivienne prendre un autre cours, quoi. Et les élections, ça va pas forcément re-amener à une situation de contestation sociale particulièrement. Donc, ce sera des choses à dépasser. Mais effectivement, dans le mouvement social de fond, dans ce qui va se passer, dans ce qui peut s'articuler dans la société bolivienne, il y a quand même des choses qui peuvent faire face, quoi, à la situation. Parce que je pense par contre que s'il y a une crispation du côté du gouvernement à bloquer sur la question des élections, il va être balayé par une mobilisation sociale qui, à mon avis, va pas attendre 30 ans avant de faire jour, quoi.
Oui, donc avec tout ce que vous nous avez dit, on se rend compte que la vision qu'on a de ce qui se passe en Bolivie en ce moment, en France, surtout à gauche, est largement incomplète, puisque très souvent en France, on a une vision très spectaculaire de ce qui s'est passé en Bolivie depuis 15 ans, avec une espèce de fétichisme d'Evo Morales, voilà, le président paysan, syndicaliste, anti-impérialiste, etc. Et on se rend compte qu'en réalité, avec ce que vous venez de nous expliquer, les choses sont beaucoup plus complexes, qu'en réalité, le MAS et Evo Morales n'ont pas promu une autre forme de développement, n'ont pas promu de transformation sociale réellement émancipatrice, et qu'en réalité, ils ont essentiellement reproduit les structures de domination et d'exploitation existantes, avec quelques trucs en mieux et quelques trucs en pire, mais clairement, on ne peut pas dire que c'était une franche réussite. Et donc, finalement, ce coup d'État, enfin, c'est un coup d'État terrible pour la population bolivienne aujourd'hui, mais il faut aussi voir que ce coup d'État est le produit voilà, de la désaffection populaire vis-à-vis d'un gouvernement Morales qui a multiplié les actions hostiles aux mouvements sociaux autonomes et indigènes et qui a même fini par tenter une forme de coup de force avec la fraude électorale. Donc on voit avec tout ce que vous avez dit que les choses sont plus complexes et qu'en réalité, les forces de gauche comme les forces de droite doivent être combattues du point de vue voilà, de l'autonomie des mouvements sociaux et indigènes, comme c'est le sous-titre de votre article. Et donc, on vous remercie beaucoup de nous avoir éclairé sur la situation en Bolivie et on invite les personnes qui sont intéressées à regarder les liens qu'on mettra voilà, sur la page de l'émission, donc de vos deux articles et éventuellement des mises à jour si la situation évolue radicalement par rapport à ce qu'on dit, puisque l'émission est enregistrée du coup début janvier 2020. Donc merci beaucoup.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Jair Bolsonaro est un cadeau pour Maduro actuellement, et l'inverse est également vrai. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Bolsonaro, qui est une base, une composante fasciste, ouais. Avec de l'autre côté un système ultra-campiste qui finalement a à peu près le même degré de réflexivité.